Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour.
L'ancien Premier ministre Boubou Cissé, l'animateur Rasbat et 5 autres personnalités maliennes qui étaient poursuivies pour complot contre l'État viennent d'être relaxées par la Cour d'appel de Bamako. Et pourtant, sur demande du parquet général de Bamako, ces personnes restent en prison. Leurs avocats parlent d'acharnement politique.
Non, je voudrais tout d'abord faire remarquer que le Mali est un État de droit dans lequel il y a le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Je m'interdis donc de commenter les décisions de justice. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako a décidé de l'annulation de la procédure. Le parquet s'est pourvu en cassation, en pourvoi. Donc je ne voudrais pas, de ce point de vue-là, commenter outre mesure. La justice suit son cours. Attendons le reste de voir ce qui va se passer.
Oui, mais tout de même, le parquet général, il est sous la tutelle de votre ministre de la Justice.
Je voulais le préciser tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit où il y a la séparation des pouvoirs. Donc la justice fait son travail, le gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Justice, est aussi dans son office. C'est deux instances distinctes.
Et pourquoi ce pourvoi? Est-ce à dire que finalement, ces 7 personnalités ont vraiment tenté de déstabiliser l'État malien?
La procédure suit son cours, attendons donc la suite de ce que décidera le juge.
Simplement, du temps d'Ibeka, quand la cour d'appel de Bamako rendait une décision, elle n'était jamais contestée ensuite par le parquet général. Est-ce que la décision qui vient d'être prise ne va pas ternir votre image et celle de votre gouvernement?
La justice suit son cours, M. Beaubouvier. Je ne voudrais pas commenter outre mesure ces décisions de justice. Attendons de voir ce que dira le juge à ce niveau-là.
Le 19 février, dans votre discours devant le Parlement de transition, vous avez annoncé que les délais de cette transition seront tenus et que les élections se dérouleront à la date prévue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Les élections seront l'aune à laquelle sera jugée la transition et c'est pourquoi nous accordons le plus grand soin à l'organisation, au déroulement et au résultat de ces élections-là. Et nous allons tout faire, comme l'a indiqué le chef de l'État, que les délais soient absolument respectés. Nous y travaillons très fortement.
Est-ce que ça veut dire que les élections auront lieu avant mars 2022, comme promis après le putsch d'août 2020?
Les élections seront tenues à bonne date. Comme vous le savez, j'ai rencontré la classe politique il y a 2 semaines. Nous sommes convenus de la mise en place d'un cadre de concertation qui nous permettra précisément de travailler plus avant de manière à ce que nous soyons dans les délais convenus, à savoir les 18 mois fixés à la transition.
Les 18 mois fixés pour la transition, si on fait partir la transition à août 2020, ça nous amène à février 2022, c'est cela ?
Oui, l'horizon qui a été fixé sera celui-là.
Le fait que vous ne donniez pas de date précise, est-ce parce qu'il risque d'y avoir des prolongations au-delà de février 2022?
Il n'y aura pas de prolongation, comme l'a dit le chef de l'État. Nous travaillerons à l'esprit, l'horizon fixé, celui des 18 mois.
Parmi les partis politiques, l'URD du regretté Soumeila Cissé demande une réforme du système électoral pour qu'on ne revoie pas les fraudes de la présidentielle de 2018. Qu'est-ce que vous répondez?
Nous travaillons à cela. Vous savez, pour cela, il y a 2 options sur la table. D'une part, la création d'un organe unique de gestion des élections ou le maintien du statu quo. Pour nous, il s'agit d'approfondir la question de l'organe unique de gestion des élections. Cette question-là, de l'organe unique dans sa création, son déploiement sur le territoire national, les moyens à mettre en œuvre à sa disposition pour son fonctionnement correct, ainsi que sa composition, c'est toutes ces questions. Nous discuterons donc avec l'ensemble des acteurs.
Et vous pourriez être candidat à cette présidentielle?
Non, pas du tout. Je ne suis aucunement candidat puisque déjà les règles du jeu dès le départ étaient claires. Aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat au scrutin à venir.
Le 26 janvier, des accords intercommunautaires ont été signés entre plusieurs chefs de village Peul et Dogon, notamment dans les cercles de Bankas et de Koro. Or, hier, on apprend qu'un soldat malien et 8 assaillants ont été tués dans le cercle de Koro. N'est-ce pas la preuve que ces accords sont d'une extrême fragilité?
Nous continuerons de renforcer la sécurité sur l'ensemble du pays et en développant tous les leviers qui y tendent, à la fois donc les mesures d'ordre sécuritaire, mais aussi les discussions permettant précisément d'aboutir à des accords entre acteurs locaux.
Et vous n'êtes pas inquiet après ce qui s'est passé hier dans le cercle de Koro?
La sécurité des Maliens me préoccupe toujours. À Koro, comme à Kidal, à Kai ou à Ténékou, nous y travaillons. Notre priorité aujourd'hui demeure la sécurité.
Et ces accords intercommunautaires, quelle est la part que vous y prenez, vous, en tant que chef du gouvernement? Est-ce que l'État malien y apporte des garanties sur le plan financier, sur le plan politique, avec le concours de médiateurs, par exemple?
Nous suivons tous les efforts tendant à ramener la paix partout sur le territoire national. D'abord par nos propres initiatives, mais aussi en appuyant toutes celles qui tendent aussi à cela, comme celles que vous venez d'indiquer. Et de ce point de vue, nous contribuons également à ce type d'initiative que nous appuyons par divers moyens, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur d'autres plans. Le gouvernement travaille précisément à amplifier ses efforts de manière à les donner plus de vigueur et plus de crédibilité.
Sur RFI et France 24, c'était il y a tout juste 4 mois, vous avez déclaré « Avec les groupes radicaux, nous avons choisi l'option du dialogue. Nous espérons parvenir à nouer un dialogue. Est-ce que vous y êtes arrivé ?
D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que sur la question du terrorisme, la position de principe du gouvernement du Mali est que nous condamnons fermement le terrorisme et nous le combattrons énergiquement. Et cela dit, pour ce qui concerne le dialogue engagé avec les groupes armés terroristes, je voudrais aussi rappeler que ceci constitue une recommandation très forte de notre peuple à travers le dialogue national inclusif, mais aussi les journées de concertation nationale de septembre 2020. Je ne voudrais pas m'apesantir outre mesure sur cela, compte tenu de sa sensibilité.
Alors, il y a un autre Premier ministre qui se dit ouvert au dialogue avec les groupes djihadistes, c'est votre homologue du Burkina Faso. Et la presse du Burkina révèle que l'État malien aurait facilité des discussions entre Ouagadougou et les groupes radicaux du nord du Burkina Faso. Est-ce que vous confirmez ?
Je ne commente pas les faits de presse, mais ce que j'aimerais simplement indiquer, c'est que la paix au Mali est utile pour le Burkina et réciproquement. Donc, de ce point de vue-là, nous concertons régulièrement pour promouvoir et renforcer la paix et la sécurité dans nos pays respectifs.
Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du président sénégalais Macky Sall? C'était sur RFI il y a 10 jours. Je suis contre une discussion avec les terroristes.
Je ne pourrais pas commenter les déclarations d'un chef d'État. Je parle pour le compte du Mali et je vous ai indiqué ce que notre peuple a recommandé et ce que nous faisons.
Le mois dernier, la justice sénégalaise a inculpé et écroué 4 hommes arrêtés à la frontière Mali-Sénégal et présentés comme les membres d'une cellule terroriste du GSIM d'Iyad Agrali. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet?
Nous combattrons le terrorisme le plus énergiquement possible, partout sur notre territoire et aussi en concertation avec nos pays voisins de manière à ce que nous ramenions la paix et la sécurité dans notre espace. La paix au Mali, c'est aussi la paix au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Niger. Donc, il faut impérativement que nous développions des concertations à partir des échanges d'informations, de renseignements.
Mais quand vous dites...
Vous savez aussi parler avec les terroristes, mais c'est aussi une manière de combattre le terrorisme.
C'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de dire « nous combattons les terroristes » et le fait de dire « nous parlons avec les terroristes » ?
Je vous le dis, nous condamnons fermement le terrorisme et nous allons nous y engager de manière extrêmement inflexible. Mais en même temps, nous engageons d'autres leviers sur lesquels nous pouvons jouer, nous permettant précisément d'aboutir au résultat que nous recherchons, à savoir ramener la paix et la sécurité sur notre territoire. C'est les deux leviers qu'il faut combiner ensemble.
C'est-à-dire, vous combattez certains terroristes et vous dialoguez avec d'autres terroristes?
Nous combattons le terrorisme quel qu'il soit. Il n'y a pas de bon ou de mauvais terrorisme. Nous combattons le terrorisme quel qu'il soit et fermement et très clairement.
Il y a cette petite phrase du président français Emmanuel Macron, c'était lors du dernier sommet du G5 de N'Djamena, il y a 3 semaines. « Nous avons consolidé une convergence avec nos interlocuteurs du G5 Sahel pour considérer qu'Iyad Agrali et Amadou Koufa sont des ennemis et en aucun cas des interlocuteurs. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette petite phrase du président français?
Je ne pourrais pas commenter les déclarations de chef d'État.
Oui, mais au-delà du nom d'Emmanuel Macron qui prononce cette phrase, est-ce que vous considérez, comme les Français, qu'Iyad Agrali et Amadou Koufa sont des ennemis?
Des ennemis, pour qui la France est un partenaire important, particulièrement important pour nous, qui combat à nos côtés contre le terrorisme, avec lequel nous avons engrangé des résultats importants. Donc nous combinons les armes de la guerre avec les armes du dialogue contre le terrorisme. C'est cela qu'il faut retenir, c'est ça qui est l'essentiel. Ce n'est pas des actions exclusives l'une de l'autre.
Et est-ce à dire que pour vous, Yad Agrali et Amadou Koufa, ce sont des interlocuteurs ?
L'arme du dialogue constitue le prolongement de l'arme de la guerre. Mais compte tenu de sa sensibilité, je ne souhaiterais pas m'étendre davantage sur cela.
Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit « Iyad Agrali et Amadou Koufa sont nos ennemis ».
Encore une fois, je ne commente pas des déclarations de chef d'État.
Alors on va enlever le nom d'Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas d'accord avec les Français quand ils considèrent Iyad Agrali et Amadou Koufa comme des ennemis ?
Nous coopérons très étroitement avec de nombreux partenaires, y compris, ou je dirais même en particulier avec la France, dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons ensemble obtenu des résultats très probants, importants. Il s'agit de consolider et d'amplifier. Je comprends votre insistance sur cette question, mais ce que j'aimerais simplement dire très clairement, c'est que nous sommes conscients de ce que la France donne le sang de ses enfants. Et dans notre culture, ça, c'est beaucoup.
Et vous comprenez alors que pour le président français, il soit choquant que vous puissiez dialoguer avec les gens qui tuent des soldats français.
Nous avons une action militaire que nous déployons sur le terrain. Et cette action militaire va se poursuivre contre tous les groupes terroristes qui opèrent sur notre territoire. Mais dans cette action qui se développe aujourd'hui dans notre pays, il y a la possibilité, une opportunité qui s'offre également à travers des discussions qui pourraient être engagées avec ceux qui opèrent de manière violente, souvent contre le gré et pour des raisons existentielles. Il s'agit précisément d'extirper ces éléments-là de cette posture et de les engager dans une dynamique, dans une perspective plus constructive, plus positive, plus vertueuse, qui est celle de se réinsérer dans la communauté. Et c'est cela que nous visons. Ce n'est pas de parler avec tel ou tel.
Quand vous dites dialogue avec ceux qui combattent contre leur gré, c'est peut-être plus les subalternes que les chefs terroristes ?
Oui, mais nous ne sommes pas naïfs de considérer que par le dialogue, nous parviendrons donc à régler cette question. Nous utilisons ce levier-là comme un moyen supplémentaire de parvenir à l'objectif que nous recherchons en insistant sur l'action militaire implacable qu'il faut maintenir et amplifier.
Oui, on a un exemple concret de ce dialogue. C'est lors de la libération de Soumeila Cissé et de Sophie Petronin début octobre. C'est cette photo où un émissaire de Bamako pose aux côtés du numéro 2 du GSIM, Zedane Aguita. Est-ce que ce dialogue se poursuit ?
Je vous le dis tantôt, nous travaillons d'arrache-pied à assurer la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. C'est des efforts importants, quotidiens, que nous déployons et je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Et vous savez que pour ça, nous payons un sacrifice élevé, un sacrifice humain élevé pour ça. Et donc, nous saluons vraiment l'engagement de la France à nos côtés. Nous savons le prix du sang que la France donne et c'est dans cela que notre coopération est à saluer. Et je voudrais dire que le gouvernement du Mali continuera de s'engager pour cela en ayant conscience précisément que seul ce partenariat pourrait aussi utilement contribuer à nous permettre d'engranger d'autres résultats plus importants et de les amplifier. La coopération militaire entre nos deux pays est assez forte, elle se densifie davantage. Je pense que très récemment, vous avez eu des échos de part et d'autre qui saluent justement cette coopération militaire. Nous devons continuer à développer de part et d'autre.
Mokhtar Ouane, merci.